Bonjour Claude Perdriel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur
Merci
Radio Classique.
Merci de m'accueillir.
On est ravis parce que vous êtes rare dans... Enfin, pas rare dans les médias, mais enfin rare à parler publiquement. Vous avez plutôt tendance à vous occuper des journaux que vous possédez et à préférer souvent la discrétion. Je voudrais vous faire réagir en homme de presse sur la une du Parisien aujourd'hui en France, qui s'inquiète aujourd'hui du peu d'intérêt des jeunes filles pour les études scientifiques et l'industrie. Vous qui êtes à la fois passionné par les sciences et industriel, vous qui avez fait Polytechnique, ça doit probablement vous interpeller, le peu d'appétence des jeunes filles pour les sciences et l'industrie.
Je pense que c'est un désastre. Les filles sont bien meilleures que les garçons dans les études primaires et secondaires. Nous n'aurons jamais suffisamment d'ingénieurs pour réussir la réindustrialisation. Nous manquons d'ingénieurs cruellement et cela bloque nos développements. En plus, moi, je crois que les filles, les femmes, apportent une idée différente. Et en matière d'industrie, comme dans tous les éléments, on a besoin d'une idée différente, de contradiction, de construction, et on a besoin des filles pour l'industrie et pour les en tant qu'ingénieurs. J'espère que l'éducation nationale, qui est au fond la principale responsable de cet état de fait, va le rétablir et va leur expliquer à quel point être ingénieur aujourd'hui dans une industrie est un des plus beaux métiers du monde, c'est-à-dire qu'au lieu de naviguer dans les choses abstraites, eh bien on navigue dans les choses concrètes. On réalise, on construit des objets qui seront utilisés, c'est-à-dire on a une vie passionnante.
Claude Perdriel, vous avez été un industriel et c'est parce que vous étiez un industriel et un entrepreneur que vous avez pu vous occuper de journaux qui gagnaient pas toujours de l'argent et c'est de pire en pire aujourd'hui. Avec la presse, que vous ont apporté, vous, vos études d'ingénieur et que vous a enseigné cette expérience d'industriel dans les produits d'hygiène, dans les produits sanitaires et les fameux sani-broyeurs?
Écoutez, industriel, ça veut dire innover constamment. L'industrie évolue à une vitesse vertigineuse et aujourd'hui, il ne faut pas s'y tromper. Les dizaines de millions d'ingénieurs en Chine nous font concurrence, terriblement concurrence, et ils sont bons parce que depuis 30 ans, il sort plus d'un million d'ingénieurs chaque année des universités chinoises. En tant qu'industriel, moi j'en ai pris mon parti il y a bien longtemps. Il y a une trentaine d'années, j'ai confié la direction générale du petit groupe que je dirige à deux ingénieurs remarquables et j'ai pris le meilleur, c'est-à-dire j'ai pris la direction de la recherche et de l'innovation. Ce qui fait que je travaille avec un groupe de jeunes ou de moins jeunes, mais en général, les gens qui rentrent pour faire de la recherche dans le petit groupe que je dirige, ils viennent en sortant d'université et ils y restent. Mon dernier directeur technique, hélas, je l'ai perdu, il avait 80 ans il y a 2 ans, et il me disait, tant que vous serez là, je resterai. Alors le pauvre, j'ai 97 ans, il est resté longtemps.
Claude Perdriel, vous vous passionnez donc pour les innovations. Vous avez produit dans Challenge, la revue dont vous êtes le propriétaire, dans laquelle vous vous investissez personnellement chaque semaine. Vous avez produit un édito en faveur du développement des petits réacteurs nucléaires pour accélérer la transition énergétique. Expliquez-nous pourquoi le sujet vous passionne et peut-être en un mot ce que sont ces petits réacteurs nucléaires. On dirait que vous en parlez comme des réacteurs de poche.
Écoutez, je suis très heureux que vous me posiez la question. Aujourd'hui, tout le monde a compris que les renouvelables, c'était formidable, mais que les renouvelables ont un petit inconvénient, même un gros, c'est qu'il y a des moments où il n'y a pas de soleil et des moments où il n'y a pas de vent. Donc, on est obligé de faire du nucléaire. Mais aujourd'hui, il y a un match entre deux nucléaires. Le premier, c'est celui dont je parle dans l'article que vous avez cité, c'est-à-dire les petites centrales nucléaires à neutrons rapides et à sel fondu. Et les autres techniques, les centrales à sel fondu, techniques très connues depuis toujours, dont les chercheurs se sont emparés et que l'on maîtrise depuis 50 ans. Et puis d'un autre côté, il y a les centrales à eau pressurisée, celles d'ailleurs qu'en ce moment, hélas, le gouvernement est en train de relancer. Ce que, d'un certain côté, c'est peut-être utile, mais enfin, je le regrette un peu. Pourquoi ? Ben, la différence entre les deux, c'est que pour la même puissance, il y en a une qui coûte 45 milliards, l'eau pressurisée, et l'autre 4 milliards et demi, les centrales à neutrons rapides. Deuxièmement, les centrales à eau pressurisée ont un énorme inconvénient. Elles vous font des centaines, des milliers de tonnes de déchets radioactifs qui vont rester radioactifs pendant des centaines d'années, dont on ne sait pas comment se débarrasser. On les met dans le sol, on les met au fond de la mer, on ne sait pas où les fourrer. Bon, alors que les centrales à neutrons rapides, très extraordinairement, s'emparent de ces déchets, les détruisent et réussissent à en faire de l'énergie nucléaire. C'est-à-dire non seulement c'est 10 fois moins cher, mais en plus, elles réussissent à nous débarrasser des déchets radioactifs. Merveille. Bon, ces centrales, aujourd'hui, ces petites centrales, fabriquées industriellement, peuvent vous fabriquer de l'énergie du kilowattheure à 6 centimes. Je dis bien 6 centimes. Regardez tout à l'heure en rentrant chez vous votre note d'électricité aidée par l'État, selon les distributeurs, ça va être entre 22 et 24 centimes. Donc, entre les deux, pas de question. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après tout, nos dirigeants français ne sont pas idiots. Comment ça se fait qu'on fasse cette erreur de ne pas développer? On le développe un peu? Non, on l'aide un peu, mais on ne le développe pas. Eh bien voilà, pour ça, il faudrait, si j'ai le temps, je remonte un tout petit peu dans l'histoire du nucléaire en France.
Mais on va pas faire toute l'interview sur le nucléaire, j'ai encore des tas de questions à vous poser. Quelle est l'explication? Pourquoi ils le font pas, en deux mots?
Parce que, après De Gaulle, je résume, après De Gaulle, on a abandonné le nucléaire, laissé tomber tous les chercheurs français extraordinaire et encore maintenant extraordinaire, mais qu'on n'écoute pas. Et on a préféré prendre une technique américaine. Et on a dit, c'est simple, les Américains sont formidables, on prend des licences américaines. Le seul ennui, c'est qu'en Amérique, eux aussi, au lieu de donner le pouvoir aux chercheurs, ils ont décidé que le nucléaire, c'était la bombe atomique, donc ce seraient les militaires. Et les militaires, ils ont choisi ce qu'il ne fallait pas choisir, ils ont choisi la mauvaise technique. Et alors, il y a une chose encore, les chercheurs américains, quand même, dépités, désespérés, désolés, ont réussi quand même à faire financer des installations, en 69 en particulier à Oak Ridge, des installations qui ont fonctionné admirablement. Ils ont dit, mais regardez, ça marche, c'est formidable, c'est sûr, et il n'y a pas de déchets nucléaires. Oh là là, les militaires américains, ils s'en sont foutus complètement.
C'est le directeur de l'innovation et du développement qui parle, Claude Perdriel, ingénieur, polytechnicien, homme de presse. Je m'adresse maintenant à l'homme de presse et non plus à celui qui se passionne pour ces mini centrales nucléaires. Mais ma question est voisine. Vous regrettez, vous homme de presse et qui possédez notamment Science et Avenir Recherche, que l'État subventionne et aide la presse, c'est une bonne chose, mais l'État n'aide pas la presse scientifique.
J'ai pas de chance aujourd'hui, vous ne m'interrogez que sur des choses bien tristes. Oui, l'État aide des centaines de journaux d'information générale, et il a bien raison. Je parle de la presse écrite, hebdomadaire, quotidien. Et en presse scientifique, nous sommes 5. C'est pas nombreux. Et l'aide, il s'agit de l'aide postale pour les abonnements, c'est pas des millions, ce serait des centaines de milliers d'euros. Eh ben, ces 5 journaux scientifiques, eux, n'ont pas le droit à l'aide. Comment imaginez-vous ça? J'ai raconté ça à tout le monde depuis 15 ans, et en particulier à tous les politiques, ils me disent « mais c'est très mal, ça commence à se... »
Vous avez parlé au président de la République plusieurs fois.
Ah, François Hollande, quand je lui avais dit, écoutez, président, la gauche, c'est le progrès scientifique. Comment pouvez-vous maltraiter les journaux scientifiques? C'est-à-dire, Science et Vie, Ça m'intéresse, Science et Avenir, La Recherche, 5 journaux. Ah, il dit, bien sûr, c'est pas possible. Et puis, on n'est jamais arrivé à surmonter la bureaucratie et les fonctionnaires. Alors j'ai un petit espoir maintenant, figurez-vous que ça dépend du ministère de la Culture. Alors le ministère de la Culture, je comprends que la musique, le théâtre, les arts, ça les intéresse plus que la science. Avec Rachida Dati, qui m'a l'air d'une bagarreuse, peut-être qu'elle va enfin rétablir cette justice absolument invraisemblable.
La culture scientifique, ça compte aussi. Puisqu'on parle de presse, le Nouvel Observateur a changé de nom. Vous en étiez le cofondateur dans les années 60-70. Il a changé de nom. Vous en étiez le propriétaire et puis vous l'avez vendu. Ça s'appelle maintenant l'Obs. Est-ce que ça vous a étonné, ce changement de nom? Ça vous a chagriné?
Oui, un peu. Je trouve que c'était vouloir faire du jeunisme. Et en plus, le Nouvel Observateur, ça aurait été trop long pour mettre sur un titre, c'était pas le Nouvel Observateur seulement. Quand j'ai choisi le titre, puisque c'est moi qui l'avais, j'étais parti de France Observateur, on l'a appelé le Nouvel Observateur du Monde.
Et c'était très long.
C'était, oui, impossible. Mais c'était quand même en petit caractère. Et quand on l'appelait le Nouvel Obs, je trouvais que c'était un peu tourner le dos. Et puis en plus, les lecteurs de l'Observateur étaient des vieux fidèles qui devaient avoir dans les 50, 60 ans. Et quand ça s'est appelé l'Obs, ça les a un peu découragés.
Claude Perdriel, on parle de l'Obs, c'était un journal de gauche libérale, de gauche sociétale. Vous avez même aidé François Mitterrand dans sa campagne de 1974, c'était il y a bien longtemps. Vous vous êtes souvent présenté comme un patron de gauche libérale avec une proximité avec les idées de Pierre Mendès-France. Et en 2016, vous aviez expliqué qu'Emmanuel Macron vous rappelait Pierre Mendès-France. Est-ce que 8 ans plus tard, en 2024, Emmanuel Macron conserve votre intérêt? Est-ce qu'il soutient toujours cette comparaison?
Juste un mot. J'ai fait 2 campagnes électorales comme directeur de campagne. Une pour Mendès en 67, qu'on a gagné. Et une pour Mitterrand, hélas, en 74, qu'on a perdu. C'est vrai que je trouvais un certain mendésisme social-démocrate chez Macron. Je crois encore qu'il a le respect de la loi du marché, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, le marché est puissant. Et il l'a prouvé puisque, finalement, aujourd'hui, je ne parle que de cela, mais les investisseurs étrangers sont revenus en force en France, ont investi, ont créé des emplois, et on a besoin de l'investissement étranger pour développer l'industrie. On a besoin des femmes et des ingénieurs français, et on a besoin aussi de l'argent de l'étranger pour pouvoir industrialiser.
Claude Perdriel, on va probablement aujourd'hui sanctuariser le droit à l'interruption volontaire de grossesse et l'inscrire dans la Constitution. Ce sera probablement voté aujourd'hui au Congrès à Versailles. Ça vous semblait nécessaire, sachant que la loi existe?
Je pense qu'en matière de politique, on n'est jamais garanti. On n'imagine même pas. Et donc, l'IVG, c'est un droit qui pourrait demain être remis en question comme il l'est affreusement aux États-Unis. Et l'inscrire dans la Constitution, inscrire dans que le droit des femmes à disposer de leur corps est une chose, d'ailleurs, à l'Observateur, vous le savez, nous avons été les champions, puisque je pense que nous avons beaucoup aidé à l'interruption de...
Au vote de la loi.
Voilà. Oui. Avec la fameuse une sur les 343 salopes qui avaient toutes déclaré qu'elles avaient avorté. J'avais plein d'amis dont je savais qu'elles n'avaient jamais avorté, mais elles avaient voulu être solidaires. Alors, j'étais un peu surpris. Je disais, toi, t'as avorté. Mais non, bien sûr, Claude, mais je ne pouvais pas ne pas être solidaire.
Un dernier mot, Claude Perdriel, malheureusement le temps passe, vous avez 97 ans, vous travaillez toujours, il y a quelques mois encore vous jouiez au tennis. Cette longévité heureuse et active a-t-elle un secret ?
Le travail. J'aime ce que je fais, et je le fais que ce soit la presse ou l'industrie. Je le fais avec des gens qui sont des amis, je travaille passionnément et j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Je suis bien sûr physiquement, ça va pas aussi bien, je suis très diminué, mais la tête marche encore bien. Et c'est peut-être ça ce qui me permet de rester un peu jeune.
Claude Perdriel, le dernier des Mohicans et peut-être le plus jeune des patrons de presse que nous avons aujourd'hui en France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Historia, Science et Avenir, Recherche et Challenge sont toujours évidemment dans les kiosques. Merci à vous Claude Perdriel.
Merci.
Dans un instant, le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegnaud et notre esprit libre du lundi. J'ai nommé le philosophe Luc Ferry. Avec lui, nous parlerons de La Peste de Camus, adaptée pour la télévision et diffusée ce soir. Première partie, les deux premiers épisodes sur France 2, Radio Classique, 8h32. Ouh là là, que je suis en retard.